it, don't stop. Keep ticking and talking, working all around the clock. Everybody keep rocking and clocking and shocking and rocking. Go house. Everybody say rocking, don't stop it.
Passe maintenant à la partie 3 et au renouveau du hip-hop en France au travers du morceau « À qui la faute » sorti en 2019 par Kery James et Orelsan.
Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harki qui a profité de qui. La République n'est innocente.
Vous ne nous avez pas apporté de réponse, mais vous nous avez permis de nous poser des questions sur les réponses toutes faites qu'on nous donne. La précédente phrase, c'est l'une des dernières et la conclusion qu'on peut entendre dans le film Banlieusard, et sans le moindre doute la plus marquante. Sorti en 2019 sur Netflix, ce film a été écrit par le rappeur Kery James et co-réalisé avec Leïla Sy, et traite du malheureusement éternel et immuable débat sur les banlieues. Dans ce film, ce débat est illustré par deux élèves avocats, l'un banlieusard, l'une parisienne, participant à un concours d'éloquence dont le sujet est le suivant. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France? Lui, le banlieusard, doit défendre le non, elle, la petite bourge, doit défendre le oui. Obviously.
Bien que je ne sois pas un crash, n'ai pas envie de vous dire merci parce qu'au fond ce que j'ai ici.
Cette responsabilité, le rappeur français Kery James la questionne depuis pas encore mais presque 30 ans, depuis le début de sa carrière et sous plusieurs formes. Dans le projet Banlieusard, il y a du théâtre, du cinéma et de la musique. Parce qu'il avait galéré pour faire financer son film, il s'est dit qu'il allait le faire exister sur une scène avec Avif en 2017, joué notamment à Bercy et au Bouffe du Nord à Paris. Ce spectacle est un prémisse du film, abordant la même thématique, sauf que Kery James a le rôle d'un des deux élèves avocats, alors que dans le film, il est le grand frère qui traîne dans des sales coups. Grâce à Netflix, oui, on a vraiment dit ça, ce film a pu exister. Et qui mieux que Kery James pouvait l'illustrer musicalement, on y entend la mafia qu'un frit, des morceaux de lui en solo comme Lettre à la République, avec des petites digressions jubilatoires comme Little Ghetto Boy du tristement irremplaçable Donny Hathaway.
Little ghetto boy playing in the ghetto street. What you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Will you spend your days and nights in a pool room? Will you sell kinds of madness to the neighborhood? ghetto boy. Your daddy was blown away.
Mais le morceau le plus représentatif du film, c'est le featuring de Kerry James avec Orelsan, sorti le 13 septembre 2019. Il ne figure pourtant pas dans le générique, mais vraiment c'est tout comme. La trilogie complémentaire et pluriartistique du projet de Kerry James, Avif, À qui la faute et Banlieusard, donc la pièce de théâtre, un morceau et le film. À qui la faute et son clip font office de bande-annonce, fruit vidéo toujours de l'alliance Kerry James et Leila Si. Le morceau sortira le 13 septembre 2019 à l'occasion de la réédition de l'album Je rappe encore, sorti initialement en 2018, le film Banlieusard un mois après, le 12 octobre. Alors Banlieusard et À qui la faute, ça a été deux cartons. Le premier hyper attendu sur Netflix et en une semaine d'exploitation vu par 2,6 millions de foyers, grand délire. Et le second apparemment featuring le plus attendu du rap français de 2019, rien que ça, avec aujourd'hui plus de 11 millions de vues sur YouTube. On peut dire clairement qu'on a dépassé le succès d'estime là. On n'en écoute pas beaucoup de rap français, nous en vrai, mais Kerry James c'est autre chose. Et Orelsan aussi d'ailleurs, mais pas pour les mêmes raisons. Le premier, on l'a toujours admiré pour son engagement et la beauté de sa voix, et par beauté on entend à la fois de timbre et de sens. On aime qu'il n'aime pas ce que le rap diffuse aujourd'hui parce qu'il ressemble à la société, il est vide de sens mais rempli de capitalisme. On a perdu le verbe, on a perdu l'art, on a perdu l'art pour dire, on a perdu l'essence du rap. Orelsan, on l'a connu bien vulgaire pour la Saint-Valentin, puis on l'a découvert émouvant et ou gaulerie au ciné sur Canal dans Comment c'est loin et bloqué, puis plus mélancolique, politique et parfois pathétique dans son dernier album La fête est finie, sorti en 2017.
Hey, rappeur de la famille, il nous ferait-il pas un petit rap?
Non.
Allez, une chanson.
Ok.
Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sous les stroboscopes de Jiffy, j'ai préparé un petit speech parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille. Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. J'ai déjà envisagé des cousines, quitte à risquer le triso. Mais quand je vois la gueule de Delphine, qui sert à rien à part se plaindre, je comprends pourquoi son mec pourrait préfère danser avec le chien. Si j'ai plus de 30 ans et je suis toujours assis à la table des enfants, c'est pour leur dire de se méfier de Christian quand il a de l'alcool dans le sang. Et parce que j'en peux plus d'entendre les plaques de cul des parents, je crois que papa baiserait maman sur la table si vous trouviez ça marrant. Vincent, t'as le même âge que moi, pourquoi t'es quand même plus vieux? Si vous n'avez pas peur du vide, regardez Muriel dans les yeux. Pardon, mais j'ai passé l'après-midi à gonfler des ballons dans une ambiance.
Même si le clip d'À qui la faute n'est pas le film, il est une illustration de la même idée. Les arguments énoncés par chacun des deux rappeurs sont les mêmes que ceux des deux étudiants en droit dans le film. Une nouvelle fois et comme au théâtre, Kerry James dit que l'État n'est pas le seul responsable face à la situation dans les banlieues et Orelsan défend l'idée inverse. La symbolique des couleurs et des matériaux est importante dans le clip, même si elle est simple. Kerry James est vêtu de blanc, Orelsan de noir, même s'ils étaient tous deux arrivés en blanc. La nécessité de deux entités pour débattre, sur un support en miroir, du reflet, probablement parce qu'il ne faut plus cacher, il faut regarder, il faut nous regarder.
Pardonnez-la, elle serait pas comme ça si son mari la trompait pas, ou peut-être qu'il la trompe parce qu'elle est comme ça.
L'instru est mélancolique, aiguë, pointue et percutante. Pour Kerry James, banlieusard ou pas, quand on veut, on peut, même si c'est moins simple. J'ai dû en faire deux fois plus que ceux qui ont deux fois moins de talent que moi. La fatalité ne résout rien, tout est une question de point de vue, sans déconner. Les phrases sont dures mais réelles, crues mais pas violentes. Ce sont des constats dont ils sortent des diagnostics auxquels ils essaient d'appliquer des stratégies, bonnes ou mauvaises, malveillantes ou mesquines, d'avant ou pour l'après. Il est assez beau de voir que les paroles du côté de la faute partagée par le citoyen et par l'État, déclamées par Kerry James, sont plus positives parce qu'un citoyen est avant tout un homme et que l'homme est par définition un être résilient et qu'il veut vivre et progresser.
Alors comme ça, t'as entendu que Mafia qu'un free, c'était fini. Ah, Mafia qu'un free, c'est pas fini.
Depuis au début, on fait tout ce qu'il faut pour représenter les mecs du ghetto. Malgré les coups bas, on poursuit le combat et on dit tout haut ce que pense la France d'en bas. C'est toujours ghetto.
ghetto.
C'est toujours
ghetto. C'est toujours
ghetto. C'est toujours.
Tant qu'il n'y aura pas de thunes, j'ai pas fini de criter. C'est triste, mais j'ai peut-être pas fini de tomber. J'ai pas fini d'insulter les keufs et les matons. Pas fini de représenter Barbus et jouer en ville le bon. Ah! Mafia qu'un fric, c'est pas fini. Engagé par la rue, on a signé en CDI. En MAH ou en CD. C'est pour nos sœurs en MAF qu'on fait des CD.
Ils ont pas fini de vouloir nous la mettre, donc de pas soumettre. On a pas fini le couloir du malaise, sans qui on n'a pas le fil. C'est sans trucage, la cage d'escalier, la cave. On vient fumer les parages tout en explosant les barrages. On a pas fini,
on a pas fini.
L'envie de révolte résonne encore. Regarde dehors, vie hardcore, triste décor.
L'État est absolument déshumanisé parce que l'État est vu comme une entité insensible à la banlieue. Les problématiques sociales actuelles, mais aussi provinciales, comme celles des gilets jaunes, sont abordées. On les a montrées pendant des mois dans les médias, alors que la banlieue porte un gilet jaune depuis 20 ans, tout le monde s'en bat les couilles. Ça, c'est une citation. Ce ne sont que des évidences, presque des clichés, mais des vérités, on en est sûr, pas suffisamment martelées, parce qu'encore présentes. Vous savez, les mêmes que Mathieu Kassovitz, qu'on voit quelques minutes dans le film Banlieusard, faisait ressortir dans La Haine en 95, ouais, 25 ans, sans mieux quoi. L'essentiel, c'est la lumière de Kerry James et l'espoir philosophique qu'il amène dans sa prose. Parce que des vers ne doivent pas se contenter d'être beaux, ils doivent avoir du sens. Même et surtout quand ils décrivent le réel. Finir sur l'espoir, finir sur l'espoir de l'État et les citoyens comme entité pour que ça change. Qu'est-ce qu'on fait ? Vaste question. Dans une interview donnée sur France Inter le 22 novembre 2018, Kerry James, entre autres intelligences, répondait déjà à la question que pose le film, la pièce et le morceau, par une autre, plus large et plus universelle, disait-il. Est-ce que le fait d'être gouverné exempte impérativement les citoyens de toute responsabilité ? Pour nous, non, mais peut-être que pour certains, oui. Mais en tout cas, ça tombait bien à l'époque où on a écrit ce texte, parce qu'on repartait pour un deuxième confinement. C'était l'occasion de méditer là-dessus en trois parties. Si vous mettez Banlieusard, n'hésitez pas à le faire suivre du documentaire à voix haute, racontant le concours Eloquentia, qui, comme son nom l'indique, traite de l'éloquence. Pour plus de Kerry James et moins de Weshden, objectivement et clairement, sans débat.
Je voulais faire un film, je l'ai fait, je n'ai pas attendu Canal Plus, je n'ai pas attendu le CNC. J'en avais marre de voir les mêmes s'emparer de mon récit. Alors j'ai écrit mon propre scénario des panneaux vides. Je suis pas resté les bras ballants, je n'ai compté que sur mon talent. Je suis pas un fils de, il n'y a que ma détermination qui est le bras long. J'ai dû en faire deux fois plus que ceux qui ont deux fois moins de talent que moi en France. C'est normal pour un Africain. Tu me demandes à qui la faute. En ce qui me concerne, je suis pas venu au monde dans le but de bâtir les rêves d'un autre. Je porte mes victoires et mes échecs. Je suis pas un esclave, je n'ai pas l'État français pour maître.
Pourtant l'État français continue de vous la mettre. Et tu t'en sors peut-être, c'est que des miettes. Pour mieux faire croire que si t'as échoué, c'est que t'es bête. Parce que la pierre que le bâtisseur rejette finira dans la fenêtre. Un seul film de Kerry James te sent fait par des bobos de merde. Wow, tu t'en es sorti tout seul. Tu vois ce que je veux dire, tout seul. Pauvreté, combien sont sous le seuil. Depuis la bonne idée de l'État de s'enrichir sur les immigrés, de refourguer les quartiers où la classe moyenne se suicide.
Mais compare ces quartiers à ce que nos parents ont fui. Le poids, la baisse, c'est le luxe pour quelqu'un qui vient d'Haïti. Quand j'observe ceux qui ont plus, je me rappelle de ceux qui ont moins. De ces mois, je me souviens. Je n'ai jamais vu maman se plaindre. Sais-tu d'où l'on vient? Moi, je m'en suis sorti tout seul. T'as bien compris, tout seul, hein. Pauvreté sous le seuil. Les banlieues ne sont pas les seuls. Campagne à l'abandon, la misère est aussi rurale. J'en connais des petits blancs pour qui la vie est brutale.
Les blancs souffrent aussi, merci. Je voyais pas les news. La banlieue porte un gilet jaune depuis 20 ans, tout le monde s'en bat les couilles. La France est dans le déni, mélange d'ignorance et de mépris. Parle pas d'ethnie, j'ai des oncles qui croient que l'Afrique c'est un pays. Je connais les quartiers vus par ceux qui mettent pas les pieds. Quand parle à tous les repas, n'envisage même pas d'aller voir les faits. J'ai grandi dans, traîne pas avec ces gens, tu vas te faire agresser. Mythes et légendes à la télé, faut s'intégrer sans qu'on se mélange. Galère sans contre-exemple, l'avenir sera ton présent. Pas de colonie sans conséquence, racisme anti-blanc, tant de complaisance. Crois-moi, je connais cette France. Je dis pas que tout le monde est mauvais, je dis que peur et négligence rendent une populaire.
population
niaise. Y'a un racisme en France, à qui le dis-tu? J'ai écrit lettre à la République, toi, où étais-tu? On ne fait pas bouger les choses en dressant seulement des constats. Subir ou agir, je vais te le dire, cache-moi. La vie est une question de choix, ni de gauche ni de droite. Mais si nos frères ne trouvent pas de taf, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part monter leur propre boîte? T'observes le monde avec un strabisme, t'es naïf, tu crois encore à SOS, racisme et au manif.
Je suis pas naïf, je suis trahi, je crois plus qu'on m'a appris. L'égalité, la patrie, ah oui, est-ce que c'est toi qui choisis? Monte ta boîte, qui s'enrichit sur ton crédit, rentre dans le système ou périt. Oublie tes rêves dans un hall de mairie, tant qu'ils parleront d'élite. Ils disent que tu peux t'en sortir si tu le mérites, mais tu mérites de t'en sortir, c'est qu'une technique. L'État veut t'endormir et jouer les marchands de sommeil. Un seul modèle de réussite, le leur basé sur l'oseille. S'ils aident les jeunes, c'est à devenir des vieux comme eux. Tu peux toucher le jackpot, tu battras pas le casino à son propre jeu. Système en pyramide, l'argent monte, la merde reste en bas. Je dis pas que tout le monde est dans le complot, je dis que ça les dérange pas.
J'ai des frères qui sont partis.
Tout de suite, la quatrième et dernière partie, au travers du morceau Mon esprit part en couille, sorti en 95 par le groupe Expression Directe et produit évidemment par Red Lion.
Je comprends rien. L'atmosphère n'aspire rien de bien, les miens sont paniqués comme s'ils avaient lâché les chiens sur mon chemin. Gros bœufs, son magasin plié en feu, les larmes aux yeux, le vieux agenouillé, on appelle à Dieu.
Hé, hey, Rachi, ça se voit que tu n'es pas sur les hauts plateaux, demande la jolie folie, des babes tout polygonnerie, il Jean-Marie a gagné. Chez nous les négros, les picots, les flics, de voir tous les voisins s'exciter.
Tout est niqué, les six rats rêvent déjà de foncer, je suis dégoûté. Les flics tirent à vue dans la rue, ils veulent me shooter. Mais que s'est-il passé? Le couvre-feu est instauré. C'est chaud, chaud.
1995. Il paraît que c'était la meilleure année du rap. C'est d'ailleurs pour ça que le groupe français 1995 avait choisi ce nom. Dans le monde, et en tout cas aux États-Unis et en France, ça c'est certain. Si les Amériques avaient accueilli en cette année bénie Lab Cabin California de The Far Side, Gangsta's Paradise de Coolio et le Jazz Matas volume 2 de Guru, ou encore l'hypermassive The Infamous de Mobb Deep, franchement nous, on n'était vraiment pas en reste. Mon esprit part en couille d'Expression Directe, Paris sous les bombes de NTM, Qu'est-ce qui fait marcher les sages des sages poètes de la rue, Metakemat d'Akhenaton, ou encore notre morceau de boom préféré simple et funky du regretté groupe Alliance Ethnique. Combien de litres d'oasis tropicale on a descendu en écoutant ça? C'est absolument incalculable parce que c'est titanesque. C'était sympa Alliance Ethnique, c'était dansant, c'était funky, c'était good mood. Nous on était trop jeunes en 95 et donc c'était ça qu'on voulait et qu'on considérait comme le rap. Trop content de réussir à retenir les paroles et les rebalancer après avec une immense fierté.
Vous corrigez votre attitude, il en était bien temps. C'est un élément déterminant, mais non. Mais vous pensez, ah oui, vous savez, ah oui. Mais peu importe, vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos portes. Stop, je vise le naturel, détruis l'artificiel. Ce point de vue reste personnel. En d'autres termes, celui de qu'à point mais le ciel. Dire que certains ignorent les bienfaits de leur propre personnalité mieux vaut rire. La spontanéité reste mon propre point de mire. Pire, ce dont la langue, dans notre activité, que de s'agiter dans le vent. Non, si, oh, oui.
Mais cette même année, un film qui allait devenir culte sortait au cinéma, La Haine, de Mathieu Kassovitz. Et là, tu la perds, ta bonne humeur, et c'est bye bye l'oasis tropicale et bonjour Chanteloup les vignes. Le scénario du film a pour origine l'affaire Makome Mbowole de 1993 et les émeutes qui en ont découlé, dépeignant au travers de trois amis et de leur pérégrination le quotidien de jeunes banlieusards le temps d'une nuit. Le lever de voile sur la banlieue et les problématiques y étant liées avaient à l'époque suscité beaucoup de vives réactions, notamment politiques ou policières, et le service d'ordre avait d'ailleurs tourné le dos aux membres de l'équipe lors de leur montée des marches à Cannes en 95. Que c'est rude, bon sang! Son intelligence et sa qualité avaient néanmoins et heureusement été acclamées et récompensées par le prix de la mise en scène, évidemment. Si ce film avait été un tremplin pour Mathieu Kassovitz, Vincent Cassel, Hubert Koundé et Saïd Tegmaoui, les trois derniers étant les trois héros, il l'avait aussi été pour le groupe de rap Expression Directe, présent lui aussi sur les marches de Cannes. Mon esprit part en couille, c'est le morceau qu'on a retenu dans le film. Produit par Rod Lyon, donc le héros de ce cycle, il était en vérité sorti l'année d'avant, en 1994, sur la compilation Ghetto Youth Progress, volume 1, en compagnie d'autres artistes du label du même nom, une mini-hardis culte pour tous les puristes de rap français. Ghetto Youth Progress, abrévié JYP, était un projet à trois, monté en 92 par Marc Gillas, alias Rod Lyon, Frankie et Don Lascar, et le dernier il s'appelle en vrai Jean-Luc, et ils gravitaient tous les trois dans un squat à Austerlitz, qui fut en son temps la place to be à Paris, dans lequel on avait notamment pu croiser Saïd Tegmaoui avant sa carrière et où moult soirées eurent lieu. C'est à cette période que Marc rencontrera Mathieu Kassovitz qui, pour la faire courte, à l'écoute du morceau d'Expression Directe, sera absolument conquis et désirera le placer dans son film, donc La Haine. Comme pour tout ce qui touchait à Rod Lyon, certes du rude et de l'obscur, mais aussi et surtout des fulgurances et des moments de grâce. Alors le groupe Expression Directe, il est originaire de Mantes-la-Jolie et existe depuis 1994, peu de temps avant son exposition médiatique grâce à La Haine donc. Les membres sont Delta, Kartra, Le Tin et Weedy, et tout ce qu'on peut dire après l'écoute de plusieurs de leurs morceaux, c'est qu'on est passé vraiment à côté de quelque chose. Bon, en même temps, on était trop jeunes, quoi. Leur musique condense beaucoup de ce qu'on chérit et qui, pour nous, constitue une base dans notre culture musicale, avec des codes qu'on ne rattachait pas à la France. Même si le morceau débute par des mots d'Akhenaton du morceau « L'aimant » de IAM de 93, la suite, elle est résolument West Coast, et plus précisément West Coast années 90, le tout début, quoi. Que ça fait du bien, bon sang, d'entendre ça. L'instru est tellement typique que ça nous émeut presque de l'entendre avec des paroles françaises. Une énorme ligne de basse un peu huileuse, si vous comprenez l'analogie, qui immédiatement nous fait penser au tube intersidéral de Snoop Dogg « Who I Am, What's My Name » sorti en 93. Un emblème pour tout le G-Funk avec des samples de George Clinton, de Funkadelic et Tutti Quanti. Le premier truc auquel on a pensé en écoutant Mon Esprit part en couille, c'est en vérité Flashlight de Parliament. Franchement, il y a pire, et la question serait même plutôt de savoir s'il y a mieux. Morceau déjà samplé par Snoop, par Tupac, par Brand Nubian, entre autres, il est ultra typique de la manière dont la basse existe dans le funk et par extension dans le G-Funk. Sur ce dernier morceau, Bootsy Collins n'avait pas joué et à sa place c'était plusieurs mini Moog, vous savez les petites machines. Et elles seront ensuite ces petites machines reprises par Dr. Dre et toute la compagnie, d'où ces sonorités informatisées présentes dans tous les morceaux hip-hop de cette époque. Le second truc auquel on a pensé, et toujours vraiment pas des moindres, c'est Passing Me By des Américains de The Far Side. Même si c'est West Coast, même époque, tout ça, ils sont considérés comme faisant du hip-hop alternatif. D'abord parce qu'ils ne sont pas du genre meuf à poil dans cabriolet avec coupe de champ, ensuite parce que leurs influences musicales sont plus larges et plus tranquilles. The Far Side sont davantage orientés vers le jazz, sans toutefois omettre quelques Sly Stone ou James Brown pour le funk, mais dans Passing Me By, c'est par exemple à Quincy Jones qu'il se réfère avec le morceau tellement connu Summer in the City. en calant un son de saxophone qui précède chacun des refrains. Dans mon esprit par en couille, cet instrument est ultra présent. Et avec surprise, parce qu'il apporte une tonalité presque en contradiction avec la chaleur californienne du côté G-Funk. Dans une version différente du morceau, qui est d'ailleurs celle du clip, Expression Direct avait aussi inclus un sample de Shy Guy de la chanteuse Diana King, rendant le tout plus reggae et donc plus chill, on va même aller jusqu'à dire plus cheesy. Expression Directe mêle plein de codes, dans l'instru certes, mais dans les textes aussi. C'est une peinture de ce qu'ils vivent dans leur quartier en y mêlant l'époque d'il y a 25 ans qui n'a pourtant pas bougé d'un cil. La mode kiss, les potes, le sida, la prison, le deal, l'argent, le sexe, la famille, les origines, la langue, etc. Dans un texte garni de verlan qui fait tellement plaisir à lire et à entendre. À écouter d'urgence l'album Le bout du monde d'Expression Directe, produit par Rod Lyon et sorti en 98. Des instrus de fou qui font tout autant penser à Bobby Caldwell qu'à Juicy de Biggie, pourtant ce dernier étant East Coast, comme quoi, enrichi d'instruments inattendus comme de la flûte traversière, de voix féminine à la Faith Evans, de gimmick reggae et même du Lac des Cygnes de Tchaïkovski dans Comme Oswald, qui est clairement la meilleure de l'album.
Mon esprit est déjà parti en yoku. Ils disent de moi que je suis devenu fou. Le carré double S n'est pas du tout 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 comme tu le crois malgré les apparences.
Le trois quarts le gosse à la caïra.
Mon cerveau a déjà élaboré des plans de chara. Doté tété de l'avidité, un tarissable de connaissance. Cœur tracé, moi t'emmène dans l'autre sens. Je n'ai plus aucune chance de crever de mort naturelle.
Les coups, les coups.
Toujours, toujours de plus belle. Suivi à la trace et activement recherché. Toujours sur ma trace, tant pis je veux quand même des nages.
Et je vis toujours plus
haut. Oui, le deal et le gun, c'est notre dernier nespi. Je ne veux plus tenir les murs de notre dé. Si, ne crois pas que je veuille faire un stage à bois d'art. Si, trop bête de béton pour un vulgaire larcin. Je ne veux béton que pour quelque chose qui vaut bel et bien la peine. Béton pour avoir tué 3 ou 4 personnes à peine. Qui aurait voulu du mal à ma première mifa, à ma seconde mifa, Tintin, Woody, Delta. Mais n'oublie pas, ce qui fait la différence entre toi et moi, c'est qu'il y aura tout le temps derrière moi, ma smala.
Le sacré, sacré phénomène a vécu comme un kiss. Un K-I-double-S, fils du vice impliqué dans le biz. Quand j'étais jeune dans la rue, j'ai su que dans la banlieue, pour s'en sortir de vos êtres vicieux, c'est la vie facile. Nesby et Dean, tu deviens une menace pour toute la ville. Un gangsta style où je me montre habile. Le païen flip quand je trip, il a peur que je lui rode casse son shit. Quoi que l'on, ça c'est l'heure du business. Pas de promesse, mais ma robe cache plus en espèces. Car j'aime la thune et hey, je veux faire fortune. Sans travailler comme un yinche et subir le stress. Les kiss démons peut-être à l'œil, en tout cas sont jamais venus à mon seuil. Pas de preuve mec, non pas que je sois honnête. Mais le TIN est vicieux et malin. Pourtant le quartier en a baisé plus. Putain, on va et vient entre la maison et la zonzon. Putain, j'y ai pensé, aucune envie de plonger. Surtout que ma mère me disait le quartier pourrait aussi t'inspirer de tromper. Un quotidien malsain sur les bancs de cette cité. Le Val fourré, tu en as sûrement entendu parler. Dans la soirée, quand les halls d'entrée sont bondés, aux heures de pointe, impossible de respirer. Moi, et j'ai longtemps opté pour ce choix qui te surcroît. Ma porte la Yaska, 3 cacos la Kaira. Qu'est-ce qu'il y a sur les points? Baisse ça! Babylone veille, jamais expressé le pays, d'être dit la scène, ça se pourrait.
fais tout petit pour pas que les videurs me triquent.
Merci infiniment de votre écoute. C'était Encycli, c'était Marianne. Et tout à l'heure, on démarre un nouveau cycle, cette fois-ci consacré aux Rolling Stones.
2m10, un clando, un bon morceau. Mais ce soir, c'est sûr qu'on aura de bons morceaux.
Ça se passera toujours sur Cause Commune et donc toujours sur 93.1. A plus tard.
On est sur la piste, petit pas synchronisé qu'on a répété à vis. Moi et mes complices, sur la même longueur d'onde. J'ai déjà choisi ma go, pour mon pote j'ai repéré. Y'a du monde dans la salle, les trois quarts en Lacoste. Le DJ a ses platines, sa mixette et son vieux poste. Son vieux poste, nos bons délires.
Pour échanger autour des émissions de Cause Commune, causecommune.fm, bouton chat. Tous les programmes de Cause Commune, causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole sur Cause Commune 93.1, une émission de rentrée avec une invitée très spéciale et dans un lieu très spécial. Je commence par l'invitée, c'est Monique Pinson-Charlot. Bonjour Monique.
Bonjour.
Ravie de recommencer cette année de radio avec vous. Vous êtes une habituée de l'émission et puis vous sortez un nouveau livre, Le Méprisant de la République, qui sort donc ce 6 septembre. Et voilà, c'est un livre, comme tous vos livres, profond et drôle, et vengeur. Et ça fait du bien pour commencer l'année. Et j'allais dire dans un lieu très spécial, parce que nous enregistrons cette émission dans une librairie, à la librairie Le Genre Urbain. Un grand merci à Xavier Capodanno qui nous accueille dans ce lieu chaleureux et plein de monde, qui est au 60 rue de Belleville, si je ne me trompe pas. C'est ça, dit-il. Donc, merci à lui de nous accueillir et merci à toutes les personnes présentes, nombreuses, je ne peux même pas vous compter, d'être venues écouter Monique ce soir. Donc, Monique, Le Méprisant de la République, alors je ne rappelle pas vos états de service, beaucoup de gens les connaissent, mais quand même un petit peu. Vous êtes bien sûr sociologue, avec votre mari Michel, vous avez travaillé tout au long de votre vie, tout au long de votre carrière sur la classe dominante, avec des focus particuliers sur les présidents de la République, le président des riches, le président des ultra-riches. Donc il y a eu Sarkozy, il y a eu Macron, enfin ça n'arrête pas. Et là c'est Le Méprisant de la République. Après donc vous êtes intéressé à la manière dont les présidents servaient les classes dominantes, comment ils les biberonnaient à l'argent public, comment ils leur facilitaient par des lois ad hoc et autres déductions fiscales, l'enrichissement. Vous vous intéressez dans ce petit ouvrage à la manière dont ça se fait, en plus à la morgue de ce dernier président de la République en date, Emmanuel Macron, qui fait la même chose que notamment Sarkozy, qui continue ce processus d'écart entre les classes sociales, d'enrichissement des riches, de prendre à ceux qui ont déjà à ceux qui ne sont rien, comme il dit, pour donner à ceux qui ont déjà tout, mais avec cette petite touche qui lui est particulière, qui est le mépris. Et donc vous citez en introduction toutes les phrases qui prouvent ce mépris. Comment ça vous a sauté aux yeux? Ça saute aux yeux de tout le monde, puisque les statistiques le disent, tout le monde le pense qu'il est méprisant. Mais comment vous avez eu l'idée d'en faire un objet de sociologie? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ce mépris dit de lui, mais aussi de sa façon de gouverner, de sa façon de...
C'est-à-dire que le mépris, le dédain, le processus de déshumanisation de ceux qui ne sont pas du monde, de celui qui est aujourd'hui le fondé de pouvoir de l'oligarchie à l'Élysée, Emmanuel Macron, ça relève, disons, du registre de la psychologie. Ça relève de quelque chose qui aurait un trait de caractère d'Emmanuel Macron, alors que nous, sociologues, on analyse ce mépris, cette psychologisation du social, d'une façon totalement différente. C'est-à-dire que je pense que ce petit livre montre que désormais, le mépris de classe, la déshumanisation de l'autre, la stigmatisation, la délégitimation, on ne sait plus quel mot employer quand on entend Macron parler des gens qui ne sont rien, des gens qui sont des fainéants, ben pire, des fraudeurs, enfin, ça va quand même très très loin. On peut se dire que finalement, ce qui est en jeu, c'est véritablement une accélération, une amplification de la violence de classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mépris, la déshumanisation de l'autre, des travailleurs, des membres des classes moyennes et des classes populaires, est une stratégie. Tout se passe comme si, nous apprenait Bourdieu dans ses cours de sociologie, tout se passe comme si c'était une stratégie des dominants pour écraser, pour stigmatiser, pour avilir, pour tétaniser, pour rendre impuissant toute forme de révolte et de contestation.
Nous sommes en 2017 après Jésus-Christ. Toute la France est envahie par les salariés fainéants et les syndicalistes extrémistes. Le peuple est au bord de la décadence, noyé dans les allocations et les acquis sociaux. Seul un héros sera capable de sauver la France de la catastrophe qui s'annonce. Mais là, regardez dans le ciel. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Est-ce un cerf-volant? Non, c'est Emmanuel, il est parmi nous. Emmanuel, alors réjouissez-vous. Emmanuel, il a quitté l'Olympe, Jupiter, alors qu'il gagnait une blinde chez Rothschild. Il réécrit ici-bas, Emmanuel, les tables de la loi. Emmanuel, il veut notre bien. Emmanuel, il a un très bon fond de teint. En marche, vers un avenir radieux. En marche, vers un monde merveilleux. En marche, c'est fini les partis. Oui, un seul, ça suffit. Emmanuel se méfie des médias. Emmanuel, il s'y trouve à l'étroit. Emmanuel, sa pensée est trop vive, trop complexe. Y'a que Trump qui arrive à suivre. Emmanuel s'exprime avec clarté. Emmanuel parle un langage châtié, trop subtil pour ces crétins de prolo. C'est feignasse. Oh zut, y avait un micro. Regardez ces guignols, en marche, avec leurs banderoles, en marche, qui n'aiment pas les réformes, en marche, pourvu qu'ils aiment les uniformes. Emmanuel n'aime pas les assister. Emmanuel, il est contre à aider.
Tu sais quoi?
Ton association,
on s'en fout,
ça rapporte pas de stock option.
Emmanuel
taquine les étudiants.
Emmanuel
baisse les aides au logement.
C'est bien fait.
Oui, je comprends que c'est un souci.
Compliqué.
5 euros, c'est le prix d'un demi.
En marche.
Vive le pragmatisme.
En marche.
Abat les populismes.
En marche.
Le peuple, c'est des glandus.
En marche.
Ils n'ont qu'à se bouger le cul.
Comme nous.
Nous, on est conquérants.
Oui, nous. On est entreprenants. En marche.
Pour le pouvoir d'un seul.
En marche.
Et rien pour vous.
On
parler du mépris, on peut en donner quelques exemples, ce que vous faites dans le livre, hein. Je cite vos citations, Monique. Voilà, bien sûr, une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. 29 juin 2017 à Paris. Je ne céderai rien ni aux feignants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Toujours en 2017, à Néfaste, à Athènes. Voilà, puis bien sûr, sur les feignants toujours, hein, il y avait l'histoire de traverser la rue, je traverse la rue et je vous trouve un emploi. En 2018, il y revient. En 2023, le 24 juin, je fais le tour du Vieux-Port avec vous et je suis sûr qu'il n'y a même plus un emploi, mais 10 offres d'emploi, toujours plus. Voilà, on est dans ce, voilà, le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà, tout ça, au lieu de foutre le bordel, certains feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes. Enfin, voilà, c'est un petit florilège, hein, que vous citez. Mais ce qui est marrant, c'est que justement, vous, quand même, vous donnez la parole aussi au peuple dans ce livre, puisque ce livre est rythmé par des slogans délicieux que vous avez relevés lors des manifestations contre la loi qui recule l'âge des retraites, de la retraite.
Voilà, j'ai participé, donc comme beaucoup d'entre vous qui sont ici ce soir, j'ai participé à l'ensemble des manifestations contre cette réforme profondément injuste des retraites avec le recul de l'âge de 62 ans à 64 ans, avec cette idée dès le départ, grâce au slogan « Pourrais-je encore respirer avant d'expirer ?» Macron, tu nous chauffes la planète, tu nous chauffes de trop, enfin je me rappelle plus exactement, tu nous chauffes de trop, la planète brûle. Avec cette conscience qui m'est apparue dès la première manifestation, entre le fait que cette réforme des retraites va amputer l'avenir des travailleurs qui ont les conditions de vie les plus dures et les conditions de travail les plus dures, puisque je vous rappelle dès le début de cet entretien que les ouvriers ont une espérance de vie de 6 ans inférieure à celle des cadres. Donc si vous voulez, c'est énorme, et si on recule de 2 ans l'âge de la retraite, on peut comprendre que pour les familles les plus maltraitées, les plus précarisées, c'est quelque chose d'inenvisageable.
Et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure, Monique, du mépris pour le peuple, des gens qui ne sont rien, etc. Mais les gens qui sont fort utiles quand même à l'enrichissement, tout comme ce mépris, alors je vais peut-être un peu loin, mais je vais vous proposer ça. C'est vrai qu'il y a des thèses qui disent que le racisme a été inventé en même temps que l'esclavage, parce qu'il fallait bien justifier le fait qu'on faisait travailler gratuitement des gens. Et que si c'était pas des gens, c'était quand même moins grave de les faire travailler gratuitement. Ben, on a un peu l'impression d'être dans un processus similaire où on méprise le peuple parce qu'il faut se servir du peuple.
Oui, c'est vraiment un processus de déshumanisation qui autorise après toutes les formes
de violence.
De violence, vraiment de mépris, de toutes ces phrases dédaigneuses. C'est tout un ensemble, toute une panoplie qui est mise en œuvre pour vraiment empêcher toute forme de révolte. Or, là, avec la réforme des retraites, ce qui s'est passé, c'est bien au contraire une révolte inédite, déterminée, avec l'unité syndicale, l'union des partis politiques. On était tous ensemble réunis et au-delà de nos divisions qui sont qui sont pas normales, disons, dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire avec des capitalistes, c'est-à-dire les détenteurs des titres de propriété qui naissent avec ces titres de propriété à Neuilly, avec une place dans une dynastie familiale, c'est-à-dire dans une espèce d'immortalité symbolique, avec un passé, un présent et un futur, puisque les héritiers, une fois ayant été dignes de leur héritage, doivent évidemment transmettre les patrimoines à la génération future. Et donc ces dynasties familiales de la noblesse et de la grande bourgeoisie qui s'accaparent les richesses et les pouvoirs dans le long terme, dans le long terme de l'histoire, dans le long terme des quartiers de noblesse et des quartiers de bourgeoisie, afin que, évidemment, ça ne ruisselle pas vers les classes dominées.
Et en fait, ce que vous disiez tout à l'heure aussi sur la différence d'espérance de vie, et elle est encore plus importante si on prend l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire que les ouvriers sont non seulement ils vivent 6 ans de moins, mais en plus ils sont malades bien plus tôt ou invalides. Il y a cette notion d'immortalité que vous développez dans le livre qui est fort intéressante. C'est vrai qu'on a beaucoup de grands patrons de 70, de 80 ans qui nous disent « mais quoi, ces ouvriers, moi je travaille toujours ». Et en fait, vous expliquez dans le livre que ça aussi, ça fait partie du mépris, parce que déjà, ils font peut-être un travail moins harassant physiquement. Et en plus, ça a cette notion de perpétuation qui rend une projection dans l'avenir. L'avenir ne s'arrête pas à eux pour ces gens-là. Tandis que pour les gens qui n'ont pas de patrimoine, l'avenir, c'est maintenant, en fait.
Oui, j'ai essayé de développer la notion d'immortalité symbolique. Qui ne fonctionne évidemment que pour les membres de ces dynasties familiales fortunées de la grande bourgeoisie ou de l'aristocratie, et qui aboutissent à ce que finalement la mort humaine n'est qu'un épisode par rapport à la continuité dynastique. Continuité dynastique, je vous le dis, vaut bien mieux qu'un hypothétique au-delà. Parce que là, au moins, c'est quand même du solide. Vous savez que vous allez être un espèce de mort. Vous allez être mort, mais vous allez être un mort vivant. C'est-à-dire que toute la famille, vous aurez d'abord votre photo au château, vous aurez des peintures, vous aurez toutes sortes de choses qui vont, des arts de la célébration des disparus, qui sont vraiment omniprésents dans les châteaux, dans tous les hôtels particuliers dans lesquels nous avons non pas vécu, mais nous avons enquêté. Et donc cette immortalité symbolique, c'est la constitution du dominant, c'est important de comprendre ça. Et par rapport à la réforme des retraites, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que précisément, j'ai pas appréhendé la réforme des retraites de façon technocratique, de façon avec des arguments chiffrés. Non, je l'ai appréhendé comme un enjeu existentiel. À un moment où... le dérèglement climatique, le chaos climatique qui ne s'explique que par le fait que les riches, les pays riches et les riches détruisent la planète en produisant beaucoup trop de gaz à effet de serre de multiples façons, et notamment évidemment les jets privés et les yachts sont toujours des emblèmes faciles à critiquer. Préempte, ampute l'avenir des classes moyennes et des classes populaires. Et si à cette amputation-là que l'on ressent, ben là aujourd'hui on est quand même pas mal dans nos corps avec une chaleur tout à fait anormale en ce 5 septembre 2023, eh bien ce recul de 2 ans a pris corps. C'est imbriqué, c'est enchevêtré avec le chaos climatique. Et donc cette amputation de l'avenir avec la réforme des retraites et tout en même temps avec le dérèglement climatique, je pense que c'est une des explications de ce mouvement inédit et profondément unitaire. Et que même si, là je vais peut-être te laisser parce que on croit avoir perdu, en réalité c'est pas vrai. C'est eux qui ont perdu. C'est eux les vaincus. C'est-à-dire comment peut-on être content, se sentir victorieux lorsque l'on a utilisé tout ce qu'il était possible d'utiliser avec la Constitution de 1958 pour bafouer le Parlement? Pour travailler avec les camarades de classe du Conseil constitutionnel pour valider une réforme qui était rejetée par les trois quarts de la population active française. Comment est-il possible de se sentir vainqueur? Moi, je dis que ce qui s'est passé pour nous, en tout cas, qui nous sommes battus contre cette réforme, c'est quelque chose d'irréversible. Ce moment-là d'unité, ce moment-là de solidarité pour un enjeu qui n'est pas un enjeu technocratique ni administratif, c'est un enjeu existentiel de la plus haute importance, eh bien ça, personne ne nous l'enlèvera. C'est irréversible. Pour moi, c'est un effet de cliquet. Et je suis bien contente de cet effet de cliquet.
Et pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une citation d'un slogan dans ce livre que j'aime beaucoup, c'est « L'obou à 100 degrés, le peuple à 49,3 ». Et c'est vrai que ce 49,3, ça a été en fait le déclic de la vraie colère. Il y avait des manifestations pleines d'espoir, d'unité, il en est question dans le livre. Mais c'est vrai que l'utilisation du 49,3, ça a été, pour reprendre ce thème du mépris, ça a été l'expression du mépris, enfin du 49,3. Plus après tous les autres articles qui ont été utilisés, on s'est rendu compte à cette occasion, et c'est peut-être éclairant, que la Ve République nous proposait des institutions tout à fait détournables de manière tout à fait non démocratique. C'est vraiment intéressant aussi de comment ça nous a éclairé, parce que le mépris, c'est aussi, et vous le rappelez dans le livre, illustré par la manière dont, je crois que c'était Aurore Berger, a fait quasiment la morale aux députés. En instrumentalisant un horrible fait divers pour dire « Oh là là, il se passe quelque chose de grave, quand même, n'allez pas faire un peu de bazar à l'Assemblée ». C'était très infantilisant, c'était le mépris, il s'est aussi exercé à l'encontre de l'opposition à l'Assemblée nationale même.
Absolument. Et on l'a bien vu avec le groupe Liot, on l'a bien vu un petit peu à tous les nouveaux, c'est-à-dire qu'il y avait véritablement un acharnement de l'oligarchie pour aboutir à cette défaite, si on veut, de la réforme de retraite. Ce que je voulais dire, mais je l'ai oublié, alors essaye de m'aider. Non.
Je ne sais pas. Voilà, c'était à propos de la fameuse bordélisation.
Oui, voilà, alors ça y est, c'est ce que je voulais dire. Et donc, donc on peut prendre l'exemple du 49.3, mais il y a le 47.3, et puis il y a d'autres articles qui ont été mobilisés, qui sont dans la Constitution, et donc qui ont été légitimés par le Conseil constitutionnel. Mais quand on voit la composition sociale du Conseil constitutionnel, on se rend compte que c'est la même classe sociale, c'est la même oligarchie. Et justement, si j'ai fait ce petit livre, c'est justement, je me suis dit, ma fille, tu vas te concentrer sur un truc très précis, cette réforme des retraites, et tu vas essayer de montrer, puisque vous tous, vous avez participé à ça, ou vous vous sentez concernés par cette lutte, eh bien, on va mettre toute la sociologie de l'oligarchie que j'ai menée avec Michel, dans la vie la plus intime de ces familles qui sont au sommet des richesses et des pouvoirs, à propos d'un truc très précis, la réforme des retraites, et ça va faire un bouquin, parce que les éditions textuelles m'ont proposé, quand Marianne Théry, la directrice, a su que je tenais un journal de bord des manifestations, elle m'a dit « mais pourquoi est-ce que tu en ferais pas un livre ?» Et j'ai dit « si j'en suis capable, ça m'irait très bien. »
Il s'appelle Le méprisant de la République, et c'est donc effectivement aux éditions textuelles.
Voilà. Et donc, ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'actualité la plus brûlante, c'est que finalement, ce 49.3, qu'on a reçu quand même comme un coup de marteau sur le dos, comme quelque chose quand même qui nous a beaucoup choqués, est en train de se banaliser. Puisque vous avez tous entendu Elisabeth Borne annoncer que désormais, c'est le 49.3, puisqu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée, qui fera en sorte que les velléités de la Macronie en matière de violence de classe, en matière d'inégalité abyssale entre les plus riches et les plus pauvres, sera notre pain quotidien. Et ce, sans Borne. Mais avec Elisabeth. Voilà. La millionnaire. Hein. Parce que c'est important de savoir, hein, pas dans le, alors je sais pas, j'ai pas fait le travail là sur le nouveau conseil des ministres, mais dans le précédent, il y avait quand même 19 millionnaires sur 41. Donc c'est pas rien, 19 millionnaires dont Elisabeth Borne, qui se revendique enfant de la pupille de la nation, qui se revendique transfuge de classe, etc., etc.
Voilà. Et quand vous parlez de classes, c'est aussi les classes de l'ENA, les classes de Sciences Po, puisque vous notez que parmi les hauts fonctionnaires ou les gens qui ont été récemment nommés à des postes clés, comme par exemple la direction de chaîne publique de radio, ce sont beaucoup des camarades de classe ou des gens qui ont fait des études en même temps qu'Emmanuel Macron. Enfin voilà, il y a vraiment aussi la classe, c'est vraiment presque la classe d'école, qui en plus d'être la classe sociale.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, on pense dans nos têtes l'État comme une espèce de chose un petit peu autonome par rapport aux classes sociales. En réalité, l'État, c'est simplement l'État du rapport de force entre les classes. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Emmanuel Macron, on est arrivé à vraiment à un État au service quasiment exclusif des plus riches, et vous n'allez pas être déçus avec le prochain projet de loi de finances qui sera très à la défaveur toujours des plus démunis et toujours au service des plus riches. Parce que quand même, je rappelle, alors c'est un autre livre, c'est le président des ultra-riches, mais quand même, dès qu'il est arrivé à l'Élysée, et ben tout de suite, dès octobre 2017, il a supprimé l'ISF, c'est-à-dire il a supprimé la solidarité des gens de capital vis-à-vis des autres classes sociales salariées, en supprimant les valeurs mobilières de ce qui constituait l'ISF pour créer l'IFI, qui est uniquement sur la fortune immobilière. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que Michel et moi, on a fait un travail avec la Direction Générale des Impôts, grâce à Laurent Fabius, en 1999. Peut-être beaucoup d'entre vous n'étaient même pas en projet ou pas nés, mais peu importe. En tout cas, Laurent Fabius nous a accordé la demande que nous lui avions faite de pouvoir avoir accès aux 100 plus riches de l'ISF à cette époque. Évidemment, nous n'avions pas accès aux fichiers, mais nous pouvions demander aux hauts fonctionnaires de la Direction Générale des Impôts de répondre à toutes nos questions. Ils l'ont fait, et le seul contrat que nous avions vis-à-vis du ministre de l'Économie et des Finances, Laurent Fabius, à cette époque, c'était que nous ne pouvions rien publier sans lui soumettre, et soumettre à la DGI et au ministre, ce que nous voulions publier. Ce qui nous a paru tout à fait normal, parce que c'était quand même un sujet très sensible. Mais ce que nous avons découvert était absolument hallucinant. C'est-à-dire que, déjà à cette époque, et alors aujourd'hui, bien entendu, les choses se sont aggravées, mais on ne sait pas dans quelles limites, parce que déjà à cette époque, les valeurs mobilières, c'est-à-dire les actions, tous les actifs financiers hautement spéculatifs, représentaient déjà 97,5% des fortunes des 100 plus riches de l'ISF. Et donc, en supprimant l'ISF en 2017, tout de suite après son élection, dès octobre 2017, ça devait être en principe en octobre 2018. Mais la pression des donateurs d'Emmanuel Macron a été telle qu'il a dû avancer le processus, et il a bien fait, parce qu'après il y a eu les gilets jaunes, alors ça aurait été la cata. Octobre 2017, donc il supprime carrément la fiscalisation du stock des valeurs mobilières des plus riches. Et en même temps, il supprime la solidarité, et en même temps il crée la flat tax, ou la flat tax ou on appelle le prélèvement forfaitaire unique. Il supprime, tenez-vous bien, la progressivité de l'impôt sur les revenus du capital. Et les revenus du capital, à partir d'octobre 2017, sont forfaitaires à 12,8%. Alors que pour les salaires, tout monte jusqu'à 45%. Donc si vous êtes Bernard Arnault, ben voilà, vous voulez tous les revenus. Donc si vous voulez, le stock est désolidarisé, et les flux c'est-à-dire les revenus du capital qui viennent arrondir, agrandir, faire exploser le stock, sont à 12,8%. Et donc, finalement, on comprend pourquoi les déficits publics dans la santé, dans l'enseignement, dans l'information, dans la presse, dans l'agriculture, de partout. Enfin, il manque de l'argent de partout pour que nous vivions normalement, parce que ce sont des dizaines, des centaines de milliards d'euros qui sont aujourd'hui, qui manquent aujourd'hui dans les caisses de l'État chaque année.
Et par contre, l'argent, il y en a, puisque les distributions de dividendes augmentent chaque année. Et je crois que la France est l'un des pays où le nombre les sommes versées en dividendes sont les plus élevées. Et c'est hallucinant. Et à chaque fois, c'est des nouveaux records battus. Mais j'allais vous dire, Monique, vous oubliez quand même que récemment, M. Attal a fait des déclarations fortes. Sur le fait qu'il allait pourchasser les riches qui faisaient de l'évasion fiscale. C'est bien ça quand même.
Oui, c'était bien, mais enfin c'était, je veux dire, c'était de la communication.
D'ailleurs, c'était parce que ça n'a pas fait peur à grand monde.
Ça n'a pas du tout fait peur. On a l'habitude de nous dire que le verrou de Bercy c'est fini, alors que le verrou de Bercy est toujours là.
Alors, faut expliquer qu'est-ce que c'est que le verrou de Bercy, si jamais il y a des gens qui ne savent pas encore.
Si, tout le monde sait depuis l'affaire Cahuzac quand même. C'est pas possible.
Bon, on va rappeler pour ceux qui
étaient pas nés. Je vais le rappeler. Parce que quand même, ça, c'est vraiment une dérogation au droit commun qui est incroyable. C'est-à-dire que lorsque vous avez Jérôme Cahuzac, mettons, qui a fraudé le fisc, ça on le sait, c'est établi, d'une manière qui est quand même pas du tout négligeable, eh bien, il aurait dû passer par le ministre du budget pour négocier soit un passage devant les tribunaux, soit un passage devant les cellules de repentance de Bercy. Mais comme il n'y a que le ministre du budget qui peut décider de ça, et qu'il a été nommé en toute connaissance de cause ministre du budget, parce que tout le monde savait bien, enfin les gens au plus haut niveau savaient très bien ce qui se passait, eh bien voilà, vous voyez, vous comprenez le vice. C'est-à-dire qu'il n'y a que le ministre du budget qui peut orienter vers le pénal les fraudeurs fiscaux de son choix. Et évidemment, c'est toujours les pauvres petits poissons qui sont aiguillés vers les tribunaux, et les gros poissons se repentent dans ces cellules de dégrisement de Bercy. Et soit ils sont acquittés, soit ils payent une amende, c'est ce qu'on appelle la justice négociée. Ils payent une amende et puis, ma foi, ils recommencent.
Voilà. Et d'ailleurs, pour revenir toujours sur cette thématique du mépris et puis peut-être faire un petit pas de côté sur l'actualité, on a appris récemment que les organismes d'aide alimentaire et notamment les restaurants du cœur étaient en difficulté, manquaient de moyens pour nourrir la masse croissante des gens qui avaient besoin de leur secours. Et là, on voit qu'on a un milliardaire qui va faire un geste, c'est-à-dire qu'il va, toute caméra allumée, ce matin même, nous sommes le 5 septembre, donner un chèque de 10 millions d'euros au Resto du Cœur. Est-ce qu'on est en train de basculer vers quelque chose qui est un petit peu à l'américaine, c'est-à-dire qu'on est dans la charité et on n'est plus dans l'impôt, on n'est plus dans la solidarité. Ça, c'est une marque de mépris aussi, très claire. Mais est-ce qu'on est en train de basculer là-dedans en France ?
On n'est pas en train de basculer, on a déjà basculé. Franchement, la loi Ayagon sur le mécénat date de 2003, et puis c'était bien avant. Nous, ce qu'on demande aux riches, c'est qu'ils payent leurs impôts, c'est tout. Qu'ils les payent, sonnant et trébuchant.
Et qu'ils payent les salaires aussi, éventuellement, avec les cotisations sociales qui vont avec.
On est d'accord. Tandis que là, ils font une espèce de charité. Alors là, Bernard Arnault, tu ne l'as pas cité, c'est lui donc qui a proposé de donner ces 10 millions d'euros. Mais qu'est-ce que c'est pour lui ? Il est classé premier des fortunes françaises, avec 203 000 millions d'euros. C'est-à-dire que c'est une goutte d'eau pour lui. Et donc, et Là, il a dit que ça ne serait pas défiscalisé, parce que pour tout ce qui est l'aide, par exemple, à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame, tout ça, c'est défiscalisé. La fondation Louis Vuitton, en fait, c'est nous qui sommes les actionnaires, c'est vous, c'est moi, c'est toi. C'est nous qui sommes les actionnaires de la fondation Louis Vuitton, parce que nous, on a payé, si ma mémoire est bonne, là, je suis un peu fatiguée, je dirais de mémoire que nous, on a payé 588 millions sur les 800 millions qu'a pu coûter cette fondation. Donc, vous voyez, chaque fois, on est un peu les dindons de la farce, il faut bien dire les choses. Et c'est curieux qu'on accepte ça. Voilà. Et donc, moi, ce que je propose, c'est évidemment... de faire une espèce d'omelette, puisque alors je vais vous dire...
Maintenant, je pensais qu'elle allait dire révolution. Révolution par omelette.
Parce que j'ai remarqué que c'était plus recevable de citer le poème de Robert Desnos, Le Pélican de Jonathan. C'est Jonathan qui se promène un jour dans une île d'Extrême-Orient et puis qui trouve un pélican qui pond un œuf tout blanc. D'où il sort un pélican qui lui ressemble étonnamment. Ce nouveau pélican pond un œuf tout blanc, d'où il sort un pélican lui ressemblant encore plus étonnamment. Et cela peut durer pendant très longtemps, sauf si l'on fait une omelette. Et donc, quand je vous parle des dynasties familiales, voilà, vous pensez à Robert Desnos et le pélican de Jonathan.
Ah bravo, très bien, effectivement. Attendez, on n'a pas tout à fait fini, j'avais encore une question parce que quand même, on a essayé de faire l'omelette. Hein, c'est-à-dire qu'on était quand même tous dans la rue. On avait déjà les casseroles et les poêles pour faire l'omelette. Hein. Franchement, Monique, on était sur la bonne voie. Bon, le problème, c'est que les casseroles, il nous a renvoyés dans nos cuisines, mais surtout, elles n'ont pas pu être entendues. On n'a pas pu aller au contact du méprisant de la République. Parce que vous parlez aussi, alors pas directement des violences policières, ça serait peut-être une autre émission, un autre sujet, mais quand même de l'empêchement de pouvoir rentrer en contact. Il va dans la rue, mais il y a des cordons de d'hommes en bleu qui empêchent le contact entre le peuple dangereux et le président ou les représentants du gouvernement.
Oui, il ne parle même pas de peuple, hein, il parle de la foule. Ouais. C'est le héros solitaire qui fait le malin et qui va au-devant de la foule anonyme. Mais largement protégé par toutes les forces de police. Donc franchement, voilà, non. Aujourd'hui, ça sera peut-être mon mot de conclusion. Je ne sais pas si on... Non, pas on encore. Bon. Non, ce que je voulais dire, c'était que franchement, la démocratie a été bafouée. Et il faut s'attendre, donc Elisabeth Borne l'a annoncé officiellement, et il faut prendre très au sérieux cette annonce, parce que c'est une banalisation de la mise à mal de la démocratie, avec l'utilisation systématique du 49-3. La démocratie est devenue peut-être, sûrement, incompatible avec la radicalisation du système capitaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec deux éléments très importants, qui sont la marchandisation généralisée, la financiarisation généralisée de tous les secteurs de l'activité économique et sociale, c'est-à-dire que rien aujourd'hui ne doit échapper à la gourmandise des actionnaires, pas même la moindre petite plante au fin fond du Sri Lanka doit produire des dividendes à des actionnaires. Tu me suis ?
Oui, mais je suis, mais je n'anticipe pas.
Alors,
est-ce que j'en suis ? Donc, ce qui menace la démocratie, en
oui,
fait.
C'est ça. Alors, donc la démocratie est menacée par cette radicalisation du système capitaliste et, deuxièmement, par, tout est lié, hein, par le chaos climatique et la menace réelle, très forte, de la mise à mal de l'habitabilité sur notre planète. Et donc, aujourd'hui, j'estime qu'avec ce qui s'est passé avec la réforme des retraites, avec ce qui se passe avec ces canicules à répétition, on pourra quand même prendre conscience et se mettre d'accord sur le fait que nous sommes aujourd'hui à un rendez-vous historique comme autrefois, il y a bien eu l'abolition de l'esclavage, comme il y a eu l'abolition du colonialisme, enfin plus ou moins, il y a tous les relents du néocolonialisme qui nous reviennent aujourd'hui, chaque jour davantage avec les informations, eh bien aujourd'hui, il faut envisager, il faut se battre, il faut combattre le système capitaliste et envisager une sortie de ce système avec une autre conception de la société, une conception de la société basée sur le partage, sur l'humanité, la sobriété. Qu'est-ce que, par rapport à notre finitude humaine, mais c'est quand même pas possible qu'on soutienne un régime aussi prédateur, aussi destructeur. Et là, aujourd'hui, ce que nous vivons dans nos chairs, je vous le dis, c'est voilà, on a tous les outils, on a tous les arguments pour se dire ça ne peut plus continuer comme ça. Et voilà, donc il faut continuer à lutter ensemble et sans être divisés. Nos divisions ne sont rien à côté de la gravité de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Et pour vous assommer un petit peu plus, je vous dirais que dans la grande bourgeoisie, il fonctionne comme ceci. Chacun fait ce qu'il veut. La seule condition qui lui est imposée, c'est de servir les intérêts de sa classe. Donc, si je prends l'exemple de la famille Rothschild, pour laquelle nous avons réalisé un livre à soi seul sur cette famille, on voit très bien que si on est intéressé par la banque et les affaires financières, les portes des banques, des cinq branches, des cinq fils Rothschild dans cinq capitales du monde différentes leur sont ouvertes. Si c'est le vin qui vous intéresse, eh bien les portes du Bordelais vous sont ouvertes et les moutons Rothschild et autres grands vins seront la récompense personnelle et la récompense pour la classe. Si c'est la vénerie, c'est Monique de Rothschild qui était maître d'équipage d'un très grand équipage en forêt de Compiègne et avec laquelle nous avons pas mal travaillé. Voilà, donc on a pu voir que chacun était heureux d'être là où il était, mais toujours dans la défense des intérêts de sa classe. Et quand il y a des concurrences, quand il y a des problèmes entre Bernard Arnault et François Pinault, par exemple à propos de Gouchy, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On envoie le cher Marc Ladreil de la Charrière essayer de trouver une solution au problème afin que la classe ne soit pas salie. Et en effet, voilà, Marc Ladreil de la Charrière a réussi la médiation comme il l'a fait en d'autres circonstances. Donc pour nous, et puis alors très important, et pour que ça fonctionne, il crée toutes sortes d'institutions pour coordonner sans arrêt les intérêts de cette classe. Alors je donne un petit exemple qui va tout de suite vous faire comprendre le système, et que du coup ça va être notre système à nous, vous allez voir. Le bois de Boulogne, à l'ouest de Paris, qui a été conçu sous le Second Empire comme le bois de Vincennes, a été considéré dès 1848 comme étant le parc de l'oligarchie, le parc des dominants, le parc privé, alors que c'est un espace public. Et en effet, avec des concessions négociées avec les responsables de la ville de Paris, il y a eu, dès 1848, la création du Cercle du Bois de Boulogne, du Polo de Paris, du Racing, la création de restaurants tellement chers que, de fait, ils sont réservés à cette élite. Et du coup, le Bois de Boulogne a été considéré, alors avec le jardin d'acclimatation aujourd'hui, qui est sous concession pour LVMH et Bernard Arnault en particulier, le bois de Boulogne est devenu le parc privé de l'oligarchie. Et pour le défendre, pour empêcher qu'il y ait un centre d'hébergement d'urgence qui se construise aux abords du bois de Boulogne, pour empêcher toute intrusion, eh bien, ils ont créé 20 associations du bois de Boulogne, et la 21e, alors c'est par secteur, hein, par secteur et par problème. Et la 21e s'appelle l'Association de coordination des associations de défense du bois de Boulogne. Voilà. Et ça, c'est trop fort.
Mais alors justement, il faut qu'on fasse pareil. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête, je dis on, mais il faut qu'on arrête de prêter l'oreille à ce qui nous est largement diffusé comme élément de haine qui vise à opposer les un peu moins pauvres contre les un peu plus pauvres ou les un peu plus blancs contre les un peu moins blancs. Enfin voilà.
Oui, il faut qu'on ait cette même au sein de la gauche, les plus à gauche de plus à gauche, les plus à, enfin voilà, d'arriver à.
Alors nos clubs, c'est quoi? C'est les syndicats. J'allais dire presque tous les syndicats. Le syndicalisme, le fait de pouvoir, par rapport à un patron, être un collectif, c'est même pas une question de marque de syndicat, c'est une question d'avoir cette conscience qu'on peut faire front, qu'en se mettant ensemble, on est quand même plus nombreux.
Ah ben on est plus nombreux, puis ça fait classe contre classe, c'est frontal. Je veux dire, ce qui s'est passé pendant la réforme des retraites, c'est ça. Alors, ok, ça n'a pas abouti à ce qu'on aurait voulu, mais je l'ai déjà dit, je pense qu'on a gagné quelque chose de
très
fort.
On s'est compté. Voilà.
Mais plus que ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est irréversible et on va pas être déçus par ce qui nous attend et ce qui va se passer.
On se donne rendez-vous pour en reparler alors.
Oui.
On fait ça.
On a rendez-vous
on fait ça
déjà
avec vous.
le 13 octobre déjà.
Ben voilà, ouais. Déjà dans la rue et puis
Et surtout, ça sera tous les peuples d'Europe. Et ça, le 13 octobre, c'est vraiment important d'être très nombreux, même si c'est hétérogène, mais on s'en fout. La classe dominante est profondément hétérogène. Je donne juste un exemple. Dans la fortune de Bernard Arnault, 203 000 millions d'euros, c'est-à-dire 203 milliards d'euros, il y a 864 fois la fortune du 500e. Du même palmarès de Challenge, c'est la famille Roche-Beaubois, l'ameublement de luxe. 864 fois, dans l'univers, dans notre univers à nous, des classes moyennes et des classes populaires, il n'y a pas une hétérogénéité de cette ampleur. Donc c'est une classe extrêmement hétérogène. Et c'est d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de seuil de richesse. Quand François Hollande faisait le malin en disant « pour moi, le seuil de richesse est au-dessus de 4000 euros ben », c'était une ânerie pour nous sociologues et les statisticiens de l'INSEE. On sait très bien qu'il ne peut pas y avoir de seuil de richesse parce qu'il y a une telle hétérogénéité, premièrement, et deuxièmement, parce que la richesse des riches, ça n'est pas seulement la richesse économique. La richesse économique est une condition nécessaire mais pas suffisante. Et depuis l'immense travail de Pierre Bourdieu, on sait très bien que la richesse des riches, elle est enchevêtrée de multiples formes de richesse, de quatre formes de richesse. La richesse économique, je viens d'en parler. La richesse sociale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester longtemps riche tout seul. Il faut faire partie du Gotha, il faut être sans arrêt dans les cercles, il faut être sans arrêt justement au bois de Boulogne, jouer au tennis, etc. Participer à la sociabilité mondaine, vous pouvez même pas vous imaginer ce que c'est que cette joie d'être toujours entre soi. Nous, on a participé à tout ça avec Michel puisqu'on a été d'une certaine manière un petit peu cooptés. Et puis après, tout s'est écroulé, hein, bien entendu, quand on a publié le livre sur Nicolas Sarkozy, le président des riches, ça a été fini. Alors ne parlons pas du président des ultra-riches et du méprisant de la République.
Vous avez raté, là, jamais à l'Élysée, plus jamais à l'Élysée.
Ah ben alors attends, j'ai une anecdote trop drôle. Alors après je reprendrai. Donc quand on sort le président des riches, en 2010, sur Nicolas Sarkozy, c'est, je suis désolée de dire des choses comme ça, c'est 150 000 exemplaires. Donc c'est un best-seller. Donc du coup, juste quelques mois après, l'Express organise une grande fête au Bristol, juste en face de l'Élysée, le restaurant de luxe où Nicolas Sarkozy avait l'habitude d'aller régulièrement, et avec les écrivains best-sellers de l'année. On n'est pas très nombreux, je vous rassure. Eh bien, nous, alors donc, il y a un plan de table. D'abord, moi, il y a la photo. Et moi, qui suis petite, on me place derrière Amélie Nothomb, qui refuse d'enlever son chapeau. Comme ça. Donc, moi, qui ai quand même mauvais caractère, je dis, je ne suis pas d'accord. Je refuse cette situation. Je veux être au premier rang et qu'elle soit derrière moi. Donc, j'ai gagné. Je suis au premier rang. Voilà. Ensuite, on passe à table. Les plans de table sont faits. Nous, on est avec notre éditeur François Gès, qui est mort la semaine dernière. Et j'ai un certain plaisir et une certaine tristesse à évoquer ce moment avec François Gès, qui, en tant que notre éditeur à La Découverte, accepte de venir participer à ce déjeuner au Bristol. Et il est placé entre les deux frères Bogdanov, les deux frères jumeaux Bogdanov. Moi, je suis à côté de l'un d'eux. Michel est à côté de, je ne me souviens plus qui. Enfin bref, on est à cette table-là. Et nous sommes les seuls à manger, à boire et à avoir, comme tous les autres, une semaine après, le compte-rendu dans l'Express de ce déjeuner exceptionnel. Et nous apprenons que tous les auteurs ont été invités la veille par Nicolas Sarkozy à un dîner à l'Élysée, sauf les Pinson Charlot. Tous les auteurs ont droit dans l'Express à un compte-rendu de leur travail intellectuel sur le fond, des intellectuels qui ont produit des idées, tandis que les Pinson Charlot ripaillent avec plaisir et sont les seuls qui n'ont pas été donc invités à l'Élysée. Et voilà, j'ai raconté cette petite anecdote
voilà.
Parce que je trouve qu'elle est bavarde quand même.
Oui,
sur,
ben, ça dit beaucoup.
C'est
hein.
drôle. Hein voilà. Richesse économique, richesse sociale. Ensuite, c'est la richesse culturelle. C'est-à-dire, comme on a déjà parlé pas mal de Bernard Arnault, on va continuer sur lui. Après tout, maintenant, c'est l'emblème de la France. Hein, c'est l'homme le plus riche du monde. Donc voilà, collectionneur d'art, propriétaire de sociétés de vente aux enchères, propriétaire de la fondation, enfin propriétaire provisoire, hein, parce qu'il devra rendre la fondation Louis Vuitton dans 58 ans à la mairie de Paris. On en reparlera pour ceux qui seront encore là. Voilà, le mécénat, enfin vous voyez tout ça. Donc très souvent, ils sont même au cœur des musées. Marc Ladreille de la Charrière est au cœur du choix des peintures que le musée du Louvre doit acheter. Donc du coup, ils font des dons et tout ça. Ils ont leur nom comme mécène dans l'entrée des musées. La richesse culturelle. La richesse culturelle, c'est aussi le monde des grandes écoles. Hein, vous voyez ? Et enfin, la richesse de la richesse, c'est la richesse symbolique. C'est-à-dire cette richesse qui vient symboliser l'ensemble des autres formes de richesse et qui se manifeste particulièrement dans les corps. C'est-à-dire que les corps des dominants sont fabriqués, sont conçus dans un habitus de classe tout à fait spécifique, un habitus avec des dispositions aptes à dominer les autres, jusqu'à l'incorporation. C'est-à-dire que, là je ne ferai pas de commentaires désobligeants parce que j'ai personne qui est avachi, même pas toi. Bon, moi j'essaye de me tenir, enfin voilà, les corps doivent être droits, jamais adossés à un fauteuil, pas de frange, le port de tête altier, des corps fins, des corps qui manifestent une supériorité de classe, qui renvoie à l'idéologie du sang bleu, c'est-à-dire vraiment à quelque chose qui est dans le sang. L'idéologie du sang bleu, c'est parce que avant le bronzage sur les plages, c'était la blancheur qui était valorisée. Et donc, plus on était blanc, plus on voyait les veines bleues, plus ça voulait dire qu'on faisait partie de l'aristocratie de l'argent. Donc, une incorporation de la domination dans les moindres détails. Une jeune femme me décrit une scène dont elle se souvient. Elle dit qu'elle a 4 ans, qu'elle a plongé dans la piscine de sa grand-mère dans un château en Normandie, et que quand elle est sortie, sa grand-mère était là, lui dit, alors j'ose pas dire Aude parce que c'est le nom de mon attaché de presse, ça doit être Aude, enfin un nom composé, appelons-la comme Marie Chantal, enfin peu importe, un nom composé, remettez en place vos sourcils. Parce que ses sourcils en plongeant, c'était... Donc elle me donnait cet exemple pour montrer que le contrôle sur le corps était absolument de tous les instants, mais d'une façon gentille, c'était pas agressif de la part de cette grand-mère, mais c'était pour montrer qu'il fallait se tenir et se contenir.
C'est pas rigolo quand même d'être dans la classe dominante, on peut même pas s'avachir, rien. La liberté, c'est pas mal non plus, hein.
Ah oui, mais eux, ils ont la liberté de leur habitus, parce que finalement, ils rencontrent, je suis désolée, hein, le bonheur est toujours là-haut. Hein, parce que eux, leur habitus de classe, eh bien, ils vont rencontrer tout le temps, jusqu'à leur mort et même après leur mort, ils vont rencontrer des conditions de la pratique en harmonie avec leurs dispositions, avec les dispositions intériorisées, avec cet habitus, pour reprendre ce concept de Bourdieu. Et le bonheur, je suis désolée, eh ben on l'a retrouvé là-haut. Le communisme de luxe et de pouvoir, le communisme, la solidarité, le partage, ben c'est là-haut que nous l'avons rencontré, alors que je peux vous assurer que Michel et moi, nous avions toujours cru que le communisme... Ben, c'était nous, que c'était nous tous, quoi. C'était les travailleurs, c'était...
Mais c'est nous aussi, et on n'a pas forcément les mêmes désirs que ces gens-là.
Non, c'est pas ça. Nous, on est divisés. Il faut pas se raconter d'histoire. C'est très intéressant, ce que je vous dis, de ce qui se passe là-haut. Et il faut pas essayer de faire de te réjouir facilement. Non, là, l'heure est grave. Ce que je dis est sérieux. Et nous devons réfléchir ensemble à tout cela. Et donc, je ne sais pas si je peux dire encore quelque chose sur ce petit livre, Le méprisant de la République. C'est précisément ça qui fait l'intérêt d'un travail précis sur une période précise où il s'est passé quelque chose de collectivement extraordinaire. On se pose... On chante ensemble, il y a même des chansons, alors je vais vous épargner parce que je n'ai pas apporté les textes sinon, et que je chante trop faux. Sinon, je vous signale qu'il y a une chanson, un détournement du déserteur de Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre, qui a été détournée d'une façon absolument extraordinaire par les militants de la CGT Île-de-France et que j'ai reproduite dans ce livre. Et que j'ai déjà chanté collectivement avec d'autres publics, mais là aujourd'hui, ça s'est pas, ça s'est pas présenté. Sinon, on serait parti en chantant tous ensemble, Monsieur le Président, je vous fais une lettre. Et vous verrez, elle est super. Et puis le livre se conclut, et c'est important, sur la chanson On est là. Comment est-il possible que cette chanson ait détrôné l'International, ait détrôné Bella Ciao, et avec son rythme incroyable? Et finalement, et ça je le dois à mon attaché de presse qui est ici, Aude Vaudoyer, qui m'a dit hier soir, ce « on est là », il est trop fort face, il est trop fort face au déni de présence du président de la République. Simplement, un rythme fort, on est là, et même si Macron ne le veut pas, on est là. Et cette chanson était chantée par l'ensemble des syndicats pendant les manifestations, par tout le monde, par la France insoumise, par le Parti communiste, par le NPA.
Par les Gilets jaunes aussi.
Bien sûr, les Gilets jaunes. Et elle a été, d'ailleurs vous verrez l'histoire de cette chanson, parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer le cheminot Clément Dargonne, qui mesure, moi je fais 1m50 et lui il fait 2m30 je crois. Donc quand on est tous les deux, c'est carrément la cata. Et c'est lui, cheminot de la part Dieu, qui a adapté la chanson de On est là, qui était liée à un match de football à Lens, où les supporters n'avaient pas été contents des joueurs, et ils avaient donc fait cette chanson, qui avait ensuite été adaptée par les cheminots, qui avaient changé les mots. Et puis les cheminots arrivent pour le troisième acte des Gilets jaunes en gare de Lyon, et ils chantent cette chanson adaptée aux cheminots. Vous verrez, parce que je préfère pas vous chanter.
Là, vous avez déjà presque tout dit, hein, Monique, ça y est.
ça va vous saper le moral. Et donc, les Gilets jaunes font la gueule, parce qu'ils croient que les cheminots, avec leur gilet orange, viennent leur donner des leçons. Et Clément Dargonne se réunit avec quelques autres cheminots, ils changent tout, et ça devient la chanson actuelle. ils sont partis ensemble avec les Gilets jaunes et ils racontent ça pendant 2 heures sur les Champs-Élysées. Ils ont chanté cette chanson en boucle avec son rythme qui est simplement « on est là, on est présent et on sera toujours là, quoi qu'il advienne ».
Cause commune, retour en FM à 21h et retrouvez nos programmes sur causecommune.fm et en DAB+ à Paris.
Construire.